n'est-ce pas? C'est tellement formidable de pouvoir se souvenir, ben, quand la Bible dit quelque chose, que je le crois ou pas, c'est vrai. Il faut que je le croie, parce que c'est vrai. Mais même si, ben, par moment, je ne crois pas, ben, la Bible reste vraie. Je vous invite à prendre votre Bible et de l'ouvrir dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous allons voir un ensemble de versets ce matin portant sur la résurrection. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et je vais lire le premier verset pour commencer. Après quoi, nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remettons ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu guides notre esprit, nos pensées, et surtout, Seigneur, que nous te laissions toute latitude pour transformer notre cœur, pour nous reprendre là où c'est nécessaire, et que tu sois exalté et glorifié à travers ces moments. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, vous est-il jamais arrivé de lire un livre avec beaucoup de ce qu'on appelle du suspense, où on lit et soit le personnage est en danger, le personnage principal du livre est en danger, et puis vous ne savez pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il sera délivré? Est-ce qu'il sera vainqueur? Cela vous est jamais arrivé de lire un livre un peu comme cela? J'ai entendu parler d'un livre, ça s'appelle « Martien ». Et c'est l'histoire d'un homme avec toute une équipe qui font un voyage sur Mars. Et suite apparemment à un accident, son équipe croit qu'il est mort et puis repart sans lui. Et il est là, il se retrouve là tout seul sur Mars et il doit survivre jusqu'à la prochaine mission qui est dans, j'oublie si c'est deux ans ou plus. Et donc, il doit survivre là, sur Mars, avec l'équipement qu'il a. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je me dis, est-ce qu'il va survivre? Il paraît que peut-être, selon certains, il ne survivrait pas. Mais ce sont des genres de livres qu'on lit une fois. Et puis, la deuxième fois, quand on lit, on connaît la fin, n'est-ce pas? On sait déjà, ah oui, un tel ou tel va survivre, ah, telle ou telle chose sera rétablie, même si au début, on n'a pas trop l'impression. On retrouve la même chose dans les films. Parfois, vous regardez un film, et vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais la deuxième fois que vous regardez le film, là, vous dites, ah, je sais ce qui va se passer. Et avec la résurrection de Jésus, c'est un peu comme cela que nous sommes. Nous avons déjà entendu cette histoire, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus est ressuscité. Et parce que nous le savons déjà, parfois, ça peut faire que l'histoire est un peu banale. On se dit, je connais déjà la fin. C'est déjà la deuxième, troisième, la énième fois que j'entends ceci. Je sais ce qui va se passer, donc cela ne m'affecte pas trop. Quand vous lisez un livre, vous regardez un film pour la première fois, vous ne savez pas ce qui va arriver, vous prêtez attention. Vous regardez chaque geste, vous écoutez. Tous les mots, vous lisez tous les mots, vous prêtez vraiment attention. La deuxième fois, un peu moins. Troisième fois, peut-être encore moins. Et ainsi de suite. Et si, en tant que chrétien, nous ne faisons pas attention, la même chose risque de nous arriver en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ, alors que c'est un événement tellement capital, tellement important et tellement grand dans la vie chrétienne, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de minimiser son importance, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et les chrétiens de Corinthe avaient besoin de ce rappel. Au verset 1 que j'ai lu, Paul dit clairement qu'il fait un rappel. Il dit, je vous rappelle, Paul avait déjà enseigné ceci aux Corinthiens. Et dans les 11 premiers versets, Paul va exposer de nouveau, dans les grandes lignes, l'évangile qu'il avait prêché. c'est-à-dire le salut. Quels sont les éléments fondamentaux du salut? Ben, nous les avons ici dans ces versets. Je ne prendrai pas le temps ce matin de les lire. Vous les connaissez. C'est le fait que Jésus-Christ est venu ici sur la terre. Il est bien mort sur la croix. Il a été enseveli, mis dans le tombeau pendant 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, il est bien ressuscité. Et pour prouver la réalité de cette résurrection, Paul va parler de ses témoins. Plus de 500 et lui-même en dernier. Et Paul dit, verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, tous ces témoins dont il vient de parler, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Mais pas le Corinthien étant entièrement convaincu que ces personnes avaient déjà reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et je ne pouvais pas m'empêcher, en réfléchissant sur ce chapitre, d'être étonné de l'importance que Paul accorde au salut. On pourrait croire que, voilà, il écrit à des chrétiens, voilà, il n'a pas besoin de parler du salut ou quoi que ce soit, mais on voit qu'il revient sur le salut. Parce que c'est quelque chose de tellement important. Et de se poser la question, s'assurer devant Dieu d'avoir pris cette décision à un moment donné, d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. D'avoir cru dans ces vérités exposées dans ce chapitre. Parce que si nous ne l'avons pas encore fait, comme Paul va dire par la suite, nous sommes encore dans nos péchés, dans notre péché. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est la base de tout. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ qui donne accès à cela. Mais on n'aurait jamais pu avoir la résurrection s'il n'y avait pas la mort de Jésus-Christ. Et on n'aurait jamais pu avoir la mort de Jésus-Christ si on n'avait pas sa vie. Et on n'aurait jamais pu avoir sa vie sans sa naissance. Donc, tous ces éléments ensemble, l'un n'est pas plus important que l'autre. Il est faux de tous. Certains ont essayé de classifier en disant tel ou tel élément est plus important. Que la mort de Jésus-Christ, c'est vraiment ça qui accomplit le salut. Ou bien la résurrection. Non, 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 non. Tous ces éléments sont nécessaires. Et Paul l'explique très bien ici. Mais nous voyons à travers ce chapitre, et vous le savez si vous connaissez ce chapitre, comme on dit, si vous connaissez l'histoire, Paul est obligé de corriger certaines mauvaises notions, certains mauvais enseignements chez les Corinthiens. Et il commence à faire cela à partir du verset 12. Il pose le fondement dans les 11 premiers versets. Il leur rappelle ce qu'il avait déjà enseigné. Et au verset 12, Paul va dire, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Et ce chapitre, je vous le dis, c'est parmi mes chapitres préférés dans le Nouveau Testament, parce que Paul, il est tellement clair, Paul est tellement logique, et on va voir sa progression logique à travers ce chapitre, et les vérités qu'il expose doivent nous encourager, doivent nous fortifier, comme, bien sûr, tous les autres passages de la Bible, mais particulièrement ce chapitre. Et dans ce verset 12, Paul relève l'incohérence de la croyance des Corinthiens à ce sujet. Il dit, d'un côté, nous prêchons que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce qu'il avait dit dans les 11 premiers versets. Que Jésus-Christ était réellement mort, il ne s'est pas évanoui, autre chose ne lui est pas arrivé, non, il est réellement mort physiquement. 3 jours plus tard, il revient à la vie, il est sorti de la tombe, gloire à Dieu. Et ses preuves, sont ces personnes qui l'ont vu. Et Paul dit, sans ambiguïté, c'est ce que nous prêchons. Mais il y a un problème si d'un côté nous prêchons cela, mais que nous nions notre propre résurrection. Parce que à Corinthe, il y avait certains, apparemment c'est une minorité, mais il y avait quand même certaines personnes qui enseignaient qu'il n'y avait rien après la mort. C'est-à-dire, on mourait et c'est tout. Mais n'est-il pas vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient cela? Il y a des gens, malheureusement, qui croient qu'à la mort, tout s'arrête, on est anéanti, il n'y a plus rien. Et Paul dit, c'est incompatible avec une croyance au salut. Si nous croyons au salut, si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, il est incompatible de croire que nous ne serions pas ressuscités. Et c'est ce qu'il explique au verset 12. Il continue au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il dit que ce n'est pas possible de croire dans les deux. D'un côté, de dire que Christ est ressuscité, mais que pour nous, il n'y a pas de résurrection. Ce n'est pas possible. Il dit, soit les deux sont vrais, ou les deux sont faux. Verset 14, il continue, si Christ n'est pas ressuscité, et c'est à partir du verset 14 qu'il va commencer une suite de mauvaises conséquences, si jamais Christ n'était pas ressuscité. Et regardez ce qu'il dit. Si Christ n'est pas ressuscité, 1. Notre prédication est donc vaine. 2. Votre foi est vaine. Verset 15. Nous sommes de faux témoins. Verset 17. Il revient et dit, votre foi est vaine. Il continue, vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et à la fin de verset 19, il termine en disant, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est une image bien triste que Paul décrit ici, n'est-ce pas? Alors, au début de verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. C'est-à-dire, Paul aurait travaillé pour rien. Cela vous est déjà arrivé de travailler, de faire des efforts, et en fin de compte, vous n'avez aucun résultat. Vous ne voyez pas les fruits de votre travail. N'est-ce pas frustrant d'avoir travaillé et de ne voir aucun fruit? Imaginez-vous, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, vous avez travaillé et votre patron vous dit, je ne vous paierai pas. Non seulement c'est injuste, mais c'est frustrant. Vous auriez fait vos heures. Admettons que vous faites même des heures supplémentaires. Et là, on ne vous paie pas. Vous n'êtes pas récompensé. Là, c'est quelque chose de vain, c'est-à-dire c'est vide. Et c'est extrêmement frustrant, bon, dans le monde du travail, dans d'autres domaines, mais imaginez-vous dans le domaine spirituel que Paul aurait exercé tous ses efforts spirituels pour avoir enseigné et il dit c'était pour rien. Si jamais Christ n'est pas ressuscité. Puis, la suite logique de cela, c'est que la foi des chrétiens de Corinthe se révèle. Il le dit au verset 14, il le répète. Quand même, c'est quelque chose d'important. Verset 17, il répète que cela, votre foi est vaine. Pourquoi? Parce que toute la prédication de l'apôtre Paul reposait sur le fait que Christ serait ressuscité. Et je dirais le fait que Christ est ressuscité. Ce n'est pas un si. Ce n'est pas comme si jamais il était ressuscité. Non, non. Soyons clairs là-dessus. Jésus est ressuscité. Amen. Et Paul dit ici, si nous avons prêché cela et que éventuellement il ne serait pas ressuscité, vous avez placé votre foi dans un mensonge. Et le fait d'avoir cru en un mensonge, ça veut dire que notre foi est vaine, c'est-à-dire vide. Le mot vaine ici veut dire effectivement vide, sans aucun sens. Et il dit, votre foi est vaine. Si jamais Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Verset 15, il va plus loin et il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Mais remarquez comment il qualifie cela. Nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Alors, si jamais vous mentez aux hommes, c'est grave. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le parjure, parce que devant la loi, on est censé dire la vérité et on ment. Quelque chose de très grave. Mais imaginez-vous être trouvé devant Dieu, d'avoir menti concernant Dieu. Imaginez-vous la gravité de la chose. Il dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes en fait des menteurs vis-à-vis de Dieu. Nous avons mal représenté Dieu. Et il dit, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Vous suivez la logique de Paul. Il est très logique ici. Il dit, mais, chrétien de Corinthe, réfléchissez un peu. Et verset 16, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il dit, Christ n'est pas dans une catégorie à part, comme si la résurrection lui serait arrivée, et non pas aux autres. Non, soit tous ressuscitent, et cela implique Christ, soit personne ne ressuscite, et cela implique Jésus-Christ également. Et verset 17, il continue, votre foi est vaine. Il l'avait déjà dit au verset 14, et il ajoute ce point supplémentaire, vous êtes encore dans vos péchés. Pourquoi? Parce que le salut enlève le péché. Le salut nous rend juste devant Dieu. Mais si Christ n'est pas ressuscité, pas de salut. Et s'il n'y a pas de salut, effectivement, nous sommes encore dans nos péchés. Imaginez-vous le poids de cela. Quelle fausse espérance d'avoir cru que nos péchés seraient enlevés et de trouver que, en réalité, non. Nous avons cru à un mensonge. Imaginez-vous la déception de cela. Et Paul dit, ce n'est pas possible. Christ est réellement ressuscité, mais voilà la conséquence si jamais il n'était pas ressuscité. Et puis, verset 18, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire qu'il n'y a rien après la mort. Et ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ, avec une espérance pour l'avenir, ben, eux, ils sont perdus. Il n'y a rien pour eux si Christ n'est pas ressuscité. Et verset 19, il arrive à cette conclusion dans cette partie. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'impact de la vie de Jésus-Christ agit uniquement dans notre vie physique et s'arrête après notre mort, qu'il n'y a rien après la mort, que cette vie c'est tout ce qu'il y a. Quand nous disent les gens aujourd'hui, on ne vit qu'une seule fois, donc profitons-en à fond aujourd'hui. Si nous sommes dans cette perspective, Paul, et on le comprend lorsqu'il le dit, ne semble plus malheureux de tous les hommes. Quelle tristesse! Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que Paul explique ici? Quelle tristesse se dégage de ce passage? Et Paul dit, voici les conséquences, si nous disons que Christ n'est pas ressuscité, et si nous nions notre propre résurrection. Je vais laisser de côté pour l'instant les versets 20 à 28. Parce que bon, Paul va partager une bonne nouvelle. Et bien sûr, nous savons qu'est-ce que c'est. Mais au verset 29, Paul va revenir un peu, on va dire, au côté triste. Verset 29, autrement, c'est-à-dire, encore une fois, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection des morts, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Voilà. Baptême pour les morts. Et ici, c'est la première fois que vous avez entendu parler de cela. Et baptême pour les morts. Aïe, 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 aïe. Alors, nous n'avons pas le temps ce matin de rentrer dans tous les détails. Je peux vous dire que ce passage ne veut pas dire, c'est qu'on se baptise pour que quelqu'un d'autre obtienne le salut. D'accord? Donc, tout de suite, éloignez cela de votre esprit. Ce n'est pas comme si quelqu'un est mort, n'ayant pas le salut. On se fait baptiser pour cette personne, pour que cette personne obtienne le salut. Ce n'est pas ce que dit ce verset, et nous avons d'autres versets dans la Bible qui confirment cela. Et la plupart des commentateurs et tous ceux qui se sont penchés sur cette question, ont eu du mal à vraiment expliquer ce que Paul voulait dire ici. Apparemment, les chrétiens de Corinthe comprenaient très bien. Apparemment, il y avait quelque chose qui se passait à Corinthe. Et plus probablement, ce qui se passait, c'est que des personnes étaient mortes dans la persécution par d'autres moyens. Et leur témoignage avait été tel que cela a touché les inconvertis qui, eux, se sont convertis et se sont fait baptiser. Et c'était grâce à ces personnes qui étaient mortes que ces personnes se sont baptisées. C'est-à-dire leur témoignage a poussé ces personnes à se convertir et après le baptême. C'est probablement là ce que Paul était en train d'expliquer. Mais ce baptême pour les morts n'est pas le point principal. Il dit, ce que vous faites là n'aurait aucun sens si il n'y a pas de vie après la mort, si il n'y a pas de résurrection. Il dit, c'est incompatible. Et puis, verset 30 et les versets qui suivent, Paul va expliquer qu'il subit toutes sortes de dangers, il subit toutes sortes de privations, il subit toutes sortes de mal en son corps physiquement pour Christ. Et il dit, toutes ces privations, tout ce mal que je supporte volontairement, si je n'ai pas la perspective un jour d'être ressuscité, de passer l'éternité avec Dieu, tout cela n'aurait aucun sens. Il dit, si je n'ai pas la perspective de l'avenir, je ne voudrais pas du tout subir toutes ces choses. Verset 31, chaque jour je suis exposé à la mort. Il dit, c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Si c'est seulement cela, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, verset 31, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On comprend sa perspective. Il dit, réfléchissez, chrétiens de Corinthe, s'il n'y a pas de résurrection, voici les conséquences de cela. Et puis, verset 33, apparemment, il met le doigt sur ce mauvais enseignement, d'où cela venait, sur la source de ce mauvais enseignement. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces chrétiens de Corinthe apparemment fréquentaient des personnes qui enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et Paul dit, attention, si vous continuez de fréquenter ces personnes, ils vont vous corrompre. Ils l'ont déjà fait et ils vont continuer de le faire. Donc, attention. Et puis, verset 34, il dit, revenez à vous-même. Ces chrétiens de Corinthe, qu'il aimait beaucoup, auxquels il s'intéressait beaucoup, il dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. C'est-à-dire, littéralement, il dit, arrêtez de pécher. Lorsqu'on regarde l'original, arrêtez de pécher, c'est ce qu'il dit, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre compte. Et il revient au salut ici. Quand il dit quelques-uns ne connaissent pas Dieu, en fait, il parle du salut. Et il dit, il y a des personnes dans l'Église qui ne connaissent pas Dieu, et ils sont en train de vous influencer. Alors, attention, attention, il faut témoigner à ces personnes, il faut avoir ce témoignage envers eux, leur annoncer l'Évangile, mais il ne faut pas se laisser influencer par ces personnes. Et Paul dit, mais vous réfléchissez, les chrétiens de Corinthe, et nous aussi, il faut réfléchir sur la grandeur de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si les conséquences sont aussi dramatiques, si Christ n'est pas ressuscité, et s'il n'y a pas de résurrection pour nous, les bonnes conséquences, c'est-à-dire tout ce que nous obtenons parce que Jésus-Christ est ressuscité, va être tellement grand. Et au verset 20, regardez cela. Mais, ce petit mot qui change tout, n'est-ce pas? Mais, maintenant, Christ est ressuscité de mort. Et ressuscité. Voilà notre espérance. Voilà ce qui nous permet de persévérer aujourd'hui. Voilà ce qui donne un sens à notre vie. Maintenant, Christ est ressuscité. Il y avait un mauvais enseignement dans l'Église de Corinthe. laisser cela de côté parce que c'est incompatible avec le salut, c'est illogique, même ce n'est pas conforme à ce que nous vous avons annoncé. Non. On porte atteinte à Dieu, on porte atteinte à Jésus-Christ. Et pour lui, maintenant, la vérité, c'est que Christ est ressuscité. Il tombe un peu dans l'excès en essayant de décrire toutes les mauvaises conséquences si jamais Christ n'était pas ressuscité. Mais il dit, rassurez-vous, Christ est réellement ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Quand Paul dit, verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ », ne voyez pas ici une porte ouverte pour dire « tous seront sauvés ». D'accord ? Certains aimeraient croire que, oui, tous seront sauvés. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais quand Paul dit ainsi, de même, aussi, tous revivront en Christ, c'est uniquement ceux qui ont placé leur foi, confiance en Dieu, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait cette démarche-là seront sauvés. Si nous n'avons pas fait cette démarche, nous ne sommes pas sauvés. Mais tous, sans exception, qui l'ont fait, eux, ils seront sauvés. Il n'y en manquera aucun. Donc voilà, quand, cette précision, quand Paul dit aussi tous revivront en Christ, c'est cette en Christ qui est important. Il faut placer sa foi, confiance en Christ, et ainsi on obtient le salut. Et Paul explique dans ces versets que Christ est ressuscité, et grâce à sa résurrection, nous aussi, un jour, nous ressusciterons. Et il dit, toutes ces mauvaises conséquences, ben, on peut les laisser de côté. Toutes ces mauvaises conséquences, si jamais Christ n'était jamais ressuscité, ben, c'est tout simplement intellectuel. Parce que Christ est réellement ressuscité. Et Paul dit, chrétiens de Corinthe et chrétiens de Vernon également, moi-même, chacun d'entre nous, cela doit affecter notre vie aujourd'hui. Et pas simplement à Pâques. Pâques, c'est formidable. Nous nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants, ils apprécient parce qu'ils ont les chocolats et tout. Très bien. Mais Pâques, c'est bien plus qu'un simple jour dans la semaine. Non. C'est bien plus qu'un simple jour dans l'année. C'est tout au long de l'année. Tout comme nous disons avec la naissance de Jésus-Christ, ben, ça doit être tous les jours, Noël. Okay? Également, dans notre vie, ça doit être tous les jours, Pâques. C'est-à-dire, Jésus-Christ est ressuscité. Et comme j'ai dit ce matin, pourquoi est-ce que nous nous réunissons le premier jour de la semaine? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Vous lisez les évangiles, chacun des évangiles indique qu'après le sabbat, le samedi, les femmes sont arrivées, la pierre a été roulée, et Jésus-Christ est ressuscité. Et Paul écrit à ses Corinthiens en disant, vous avez un mauvais enseignement, et cela vous empêche de grandir spirituellement, cela vous empêche de vivre pour Dieu. Et il dit, soyons clairs sur cette question de la résurrection. Et à partir du verset 35, nous ne prendrons pas le temps de lire cela, mais Paul va essayer de répondre dans les grandes lignes aux interrogations des Corinthiens, parce qu'il dit, on parle de résurrection, mais comment est-ce que ce sera? Et il dit, en fait, la question n'est pas là. Dieu s'occupera de notre nouveau corps. Dieu s'occupera de la suite. Il le fera, et on confiance en lui. Ça, ce n'est pas cela qui doit nous préoccuper. Non, qu'est-ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui? Ben, c'est le travail que j'accomplis pour Dieu. C'est le travail que j'accomplis pour Dieu. Mais ce travail ne peut pas commencer, mon Dieu ne peut pas commencer si je ne suis pas sauvé. Tout commence avec le salut, vous le savez. Et après, je peux commencer à travailler pour Dieu. Et la question qui se pose à nous, c'est déjà, suis-je sauvé? Et après, est-ce que je témoigne autour de moi? Est-ce que j'encourage d'autres à venir à Dieu? Est-ce que j'expose les vérités de l'Évangile aux autres qui m'entourent? Est-ce que je suis fidèle dans mon témoignage? Vous savez, en me préparant pour ce message, j'ai relu les quatre récits dans les Évangiles de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons que Matthieu, Marc, et puis le livre des Actes reprend avec ces paroles de Jésus-Christ, allez faire des disciples, allez partout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature, toute la création. Et Jésus dit en Actes chapitre 1, vous recevrez cette puissance venant de Dieu, vous serez mes témoins. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes témoins. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, à un groupe spécial. Ce n'est pas réservé à un dimanche dans le mois. Non, non, non. C'est quelque chose que chaque chrétien doit obligatoirement faire tous les jours. Et Paul dit aux Corinthiens, votre travail pour Dieu sera empêché, sera ralenti si vous ne comprenez pas réellement la résurrection, si vous avez de mauvais enseignements. Mais parce que vous avez un bon enseignement, Paul dit, parce que je corrige maintenant, vous devriez être en train de témoigner. Le témoignage est là. Et de se poser la question, Jésus-Christ est ressuscité, il m'a sauvé. Gloire à Dieu, amen. Et je garderai cela pour moi-même. J'aurai honte d'en parler autour de moi. Vous avez certainement entendu ce qui s'est passé au Kenya cette semaine, vendredi, je crois que c'était. Apparemment, des terroristes qui seraient venus dans une université, qui auraient demandé où sont les chrétiens, les auraient rassemblés, les auraient massacrés. Et en voyant cela, je me suis dit, aurais-je été parmi les chrétiens? Aurais-je eu le courage de dire, oui, je suis chrétien? Ou aurais-je gardé ma bouche fermée? Je peux vous dire qu'honnêtement, je ne connais pas la réponse à cette question, parce que je n'ai pas encore été placé dans une telle situation. Mais je suis sauvé, je le sais, mais quand quelqu'un me le demande, suis-je capable de dire oui, j'ai accepté Jésus-Christ? Jésus-Christ est ressuscité, il est mon sauveur. Ou ai-je trop peur? Ai-je trop honte? Paul ne l'avait pas. Paul avait cette assurance qui le poussait vers l'avant. Et les chrétiens de Corinthe, eux aussi, ces chrétiens qui sont morts au Kenya, ils sont allés jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. Et ici, Paul dit que la résurrection de Jésus-Christ doit transformer notre vie. Et cela en commençant avec le salut, bien sûr, mais après le témoignage. Un chrétien qui ne témoigne pas doit se poser de sérieuses questions devant Dieu. Mais également, cela passe par l'amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Paul, depuis le début de ce livre, essaie de corriger le manque d'amour parmi les Corinthiens. Nous l'avons vu en étudiant les différents conflits qu'il y avait dans l'Église. Et c'était principalement lié à un manque d'amour. Il y avait des rivalités. Certains se croyaient mieux que les autres. Et lorsque nous arriverons au chapitre 12, 13, 14, Paul dit, vous recherchez ces grands dons extérieurs. Mais vous faites mal. Il y a un manque d'amour. C'est l'esprit qui attribue les dons, les charismes. C'est à lui de faire cela. Notre devoir, c'est d'utiliser notre don, nos charismes pour l'utilité commune, le bien commun. Et pour lui, il faut qu'il y ait cet amour parmi les chrétiens. partager un verset d'encouragement. Partager tout simplement du temps ensemble. Vendredi soir, après la réunion à Mantes, ceux qui étaient allés, nous avons passé le reste de la soirée ensemble, nous avons mangé ensemble. Formidable. Et que les chrétiens passent plus de temps ensemble, que l'on manifeste cet amour d'en haut les uns envers les autres, que nous prions ensemble. Je parlais avec quelqu'un tout récemment qui me disait les dimanches, c'est trop court pour pouvoir bien discuter. On se dit bonjour, on demande comment ça va. Et on a quelques minutes. Et parfois, moi aussi, je suis un peu frustré, je n'arrive pas à voir tout le monde. Il y a des dimanches, je n'arrive pas à dire bonjour à tout le monde. Je suis un peu frustré. C'est pas que je ne veux pas vous dire bonjour, mais parfois, je n'ai pas le temps. Et si le dimanche est le seul jour où nous nous retrouvons entre frères et sœurs en Christ, nous manifestons que la résurrection de Jésus-Christ n'a pas eu un grand impact sur notre vie. Et Paul dit, voilà, refocalisons-nous sur la résurrection. Je dis aux chrétiens de Corinthe, cela devrait avoir un impact. Et nous arrivons au verset 57 de ce chapitre. Comme j'ai dit, à partir du verset 35, Paul va expliquer un peu dans les grandes lignes par rapport à la résurrection. Comment ce sera? Il dit, laissez cela entre les mains de Dieu. Cela ne nous préoccupe pas. Non, non, Dieu se chargera de cela. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Et au verset 57, il termine ce chapitre en disant, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait peint cette image tellement noire, tellement triste, d'une réalité où Christ ne serait pas ressuscité. Et je vous dis franchement, c'est déprimant. Vous lisez cela, et c'est déprimant. On se dit, oula! Mais Paul arrive à la fin de ce chapitre et il dit, gloire à Dieu, il y a la victoire de Jésus-Christ. Amen. Et sa victoire nous donne la victoire également. Cette victoire n'était pas uniquement pour lui, mais grâce à sa victoire, nous avons la victoire. Et je suis convaincu que ici, Paul laisse, moi je vais dire, un peu en début, la victoire dont il parle. Il nous donne la victoire, mais la victoire sur quoi? Bien sûr, sur la mort, ce qu'il vient d'expliquer dans les versets précédents. Je suis convaincu, Paul veut dire, grâce à Dieu, gloire par rendu à Dieu, pour la victoire sur la mort. Mais si nous sommes chrétiens, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, comme il explique dans ces versets. Mais je suis convaincu également que Paul veut expliquer que Dieu nous donne la victoire sur tout. Les mauvaises attitudes, le péché. Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la victoire sur tout cela. Si nous le voulons. Et cette victoire ne vient pas de nous-mêmes ou par nous-mêmes, mais c'est par Jésus-Christ, vous le savez. Et Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Et c'est tellement logique. Oui, amen. Et puis verset 58, il termine ce chapitre en disant ainsi, sur la base de tout ce qu'il vient de dire dans les 57 versets précédents, mes frères, bien-aimés, et on inclut les sœurs là-dedans, les chrétiens, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et Paul avait expliqué que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, s'il n'y avait pas la résurrection des morts, la foi des chrétiens de Corinthe était vaine. Et puis il va retrouver cette même idée ici au verset 58 en disant, non, notre travail n'est pas vain, il y a des fruits. L'Épître aux Hébreux nous montre que Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier notre travail pour lui. Mais il va nous récompenser. Et pour lui, soyez fermes, inébranlables. quelque chose enraciné qui ne peut pas du tout être bougé. Là, pour ceux qui étaient là vendredi soir, à l'église de Nantes, ils sont dans un petit centre commercial et ils ont des plots devant les magasins qui sont là. Des plots qui sont hauts, à peu près comme ça. C'est pour empêcher que les voitures s'avancent de trop. Et vous qui étiez là, vous l'avez vu, pratiquement tous étaient abîmés, soit un peu tordus, quelques-uns couchés. Et ces flots n'étaient pas inébranlables, n'étaient pas fermes. Et ces flots, on pouvait les bouger. Pourquoi? Bernard vous a expliqué qu'ils ne sont pas allés assez profondément. Et nous ne voulons pas ressembler à ces flots, mais nous voulons, comme Paul dit ici, être quelqu'un qui est totalement ferme, qui se tient sur la parole de Dieu et qui ne peut pas du tout être bougé. On utilise souvent cette illustration d'un arbre. Un arbre paloté par les vents sera un arbre extrêmement solide parce que ses racines vont prendre racine très profondément, mais aussi vont s'éloigner et vont faire en sorte que cet arbre qui subit le vent, qui est paloté, va pouvoir tenir ferme. Mais un arbre qui n'a jamais connu trop de vent, et après un grand vent arrive, cet arbre va tomber. Et Paul dit, soyez, ferme, inébranlable, pas du tout être capable d'être bougé. On peut tout faire, tout peut arriver, mais on ne bouge pas. Mais parce qu'on ne bouge pas, cela ne veut pas dire qu'on est inactif. Pour lui, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Notre travail pour le Seigneur doit grandir à la fois en quantité, mais aussi en qualité. Je devrais pouvoir dire aujourd'hui, je sers le Seigneur mieux que l'année dernière. Nous sommes déjà au mois d'avril. Je dois pouvoir dire, le travail que je fais pour le Seigneur est mieux qu'il y a 4 mois. Au mois de janvier. Non seulement je fais plus, on doit faire plus pour le Seigneur, selon nos capacités, mais le travail que nous faisons doit aussi grandir en qualité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour le Seigneur, n'importe comment, non, de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Et comme il dit, sachant que votre travail est cependant dans le Seigneur. Tout comme lorsqu'on travaille par le patron, il nous verse notre salaire, et on le mérite, on aura bien travaillé. Très bien, on est content de regarder son relevé de compte et voir que l'argent est là. Tout le monde, j'imagine, est content. Très bien. Combien plus nous devrions être contents et rassurés de voir que Dieu tient compte de notre travail pour lui. C'est lui qui tient les comptes. Les banques peuvent se tromper. Ça leur arrive. Ils ne l'admettent jamais, mais ça leur arrive. Les patrons, ils peuvent se tromper. Les hommes se trompent. Dieu ne se trompe jamais. Dieu voit notre travail pour lui. Et il va récompenser. Alors la question à se poser, c'est face à la grandeur de la résurrection de Jésus-Christ et tout ce que cela m'apporte personnellement et apporte à chacun individuellement, que vais-je faire? Quelle sera ma réponse? Puis-je rester indifférent? Puis-je rester là où je suis avec aucun changement? Je vous souviens que non. Dieu nous appelle à un changement. Nous pouvons toujours travailler de plus en mieux pour Dieu. Nous sommes encore vivants. Alors cela veut dire que Dieu a encore quelque chose pour nous à accomplir. Et alors qu'en cette journée, et tout au long de cette semaine, et tout au long de cette année, nous nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ et tout ce que cela nous apporte. Que ce soit le moteur pour nous pousser plus loin dans notre travail et notre engagement pour Dieu. Dieu ne
Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois notre cœur, rien n'est caché à toi. Tu vois tout. Seigneur, que tu puisses aider chacun d'entre nous à aller plus loin pour toi. Nous reconnaissons nos faiblesses, notre manque d'engagement, notre tiédeur par moments. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à nous souvenir de ces vérités, que nous puissions tous prendre cet engagement en ce jour, mais aussi chaque jour de notre vie, de travailler de mieux en mieux pour toi, que nous ne soyons jamais satisfaits avec notre niveau d'engagement, et que nous cherchions toujours, parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, nous cherchons toujours à te servir davantage, de mieux en mieux, et comme dit l'apôtre Paul, que toute la gloire, que toute la reconnaissance.